Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, quatrième émission, le nouveau voyage de Villa-Lobos à Paris. Soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Carrefour des Amériques. Nous sommes en 1927 et au Brésil, le compositeur Heitor Villa-Lobos embarque pour Paris pour la deuxième fois. Un séjour durant lequel il va composer et diriger la majeure partie de ce qu'il a appelé des choros. Nous sommes là aux racines de la musique populaire brésilienne. Qu'est-ce donc que le choro? Et que sont ces orchestres de choros toujours aussi nombreux aujourd'hui à Rio de Janeiro et au sein desquels Villa-Lobos a souvent joué en compagnie de son ami le compositeur Anacleto de Medeiros? Le premier choro serait en réalité une habanera composée en 1872 par Henrique Alves de Mesquita. Il l'avait appelé tango, comme à Cuba. Et c'était un des numéros de son opérette intitulée Ali Baba. Le guitariste de choro par excellence aujourd'hui à Rio de Janeiro, Maurício Carrilho, nous en parle. C'est une composition de Henrique de Mesquita, qui est le compositeur le plus ancien à notre connaissance, à avoir écrit dans ce langage du choro. Et la partition d'Ali Baba est la partition de choro la plus ancienne qui nous soit parvenue. Personne n'a encore trouvé une partition qui lui soit antérieure. C'est donc là, à coup sûr, le premier des choros. Aujourd'hui, beaucoup de compositeurs se sont remis à écrire des quadrilles, des habaneras, des lundus, ces musiques d'autrefois qui remontent au XIXe siècle et qui ont été à l'origine du choro. Ali Baba, qui a donc été sans doute le premier choro, par l'ensemble de Maurício Carrilho et de Luciana Rabello, qui sont aujourd'hui à la tête de la Casa do Choro, la maison du choro fondée en 1999 dans la rue Carioca du vieux centre de la capitale. C'est là que nous avons rencontré, avant un concert, Maurício Carrilho et la chanteuse et guitariste Ana Paes. Ana nous parle du choro. Le choro a été une pratique culturelle née à Rio de Janeiro quand on a commencé à jouer des danses européennes grâce aux partitions qui arrivaient et qu'interprétaient les pianistes. Des Scottish, des quadrilles en cinq mouvements issus du quadrille français, qui était une danse collective, alors que la polka était une danse de couple, comme la valse qui a été la première danse en couple arrivée au Brésil dans la première moitié du XIXe siècle. La polka a été la danse la plus populaire au Brésil. Et le choro est une traduction de la polka, interprétée par des instruments à cordes et des bois, c'est-à-dire la petite guitare cavaquinho, la grande guitare et la flûte et aussi la clarinette. C'était les instruments des bandas, des fanfares. Le chef de la première banda, celle des pompiers de Rio de Janeiro, a été Anacleto de Medeiros, un grand compositeur, un des piliers du choro. Choro d'Anacleto de Medeiros, que Villa-Lobos a peut-être même interprété avec lui. Les orchestres de choros jouaient dans les halls des cinémas, les salons. Les bandas les jouaient dans les rues. Mais d'où vient ce nom de choro? Du verbe chorar, qui veut dire pleurer? C'est vrai que beaucoup de choros sont plutôt nostalgiques, mais il y en a aussi de très drôles, de très exubérants. Ana Paes et Manuel Correa do Lago nous expliquent.
C'est une question que se posent beaucoup de musicologues et de chercheurs.
Et ils tentent d'y répondre, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'est arrivé à aucune conclusion. Ari Vasconcelos pense que ça vient des choromeleiros, qui étaient des ensembles instrumentaux.
Ana parle des choromeleiros, qui c'est la chorumela. La racine étymologique, c'est du chalumeau.
C'est une possibilité. D'autre part, quand on pense au choro, on pense aussitôt mélancolie. Mais je ne crois pas qu'il existe une conclusion définitive.
Thank you.
Un choro de Luiz de Souza par l'ensemble Carilho Rabelo. Aitor Villa-Lobos embarque pour Paris début 1927. Il fait le voyage avec son épouse, la pianiste Lucia Guimarães, et avec son mécène Arnaldo Guinly, qui finance là-bas l'édition de ses premières compositions chez Max Eschig. Eschig qui décide aussitôt d'éditer à son propre compte les futures œuvres du compositeur brésilien. Ce dernier va rester 2 ans à Paris, dans le studio des frères Guinly, place Saint-Michel. C'est là qu'il invite ses grands amis, les pianistes Aline van Barenzen, Magda Taliaferro, Thomas Terán et le fidèle João de Souza Lima, qui a étudié avec Marguerite Long et qui est devenu soliste au Concert Colonne. Il y a aussi le violoniste belge Maurice Raskin, les chanteuses Elsie Houston, Vera Yannakopoulos et Madeleine Gray, et les compositeurs Paul Leflem, Florent Schmitt et Edgar Varèse, et de furtives apparitions du chef d'orchestre Léopold Stokowski, de Picasso et de Fernand Léger. Paris, pour le Brésilien, c'est une fête. À l'image des affiches qui annoncent la nouvelle revue de Mistinguett, Ça, c'est Paris, qui a débuté le 26 décembre 1926 au Moulin Rouge. Mistinguett, qui avait conquis Rio de Janeiro en 1923, dans le spectacle de la troupe du Bataclan en tournée dans les Amériques, et surtout quand elle avait été, le 13 août, la vedette du Grand Bal, lors de l'inauguration du nouvel hôtel de luxe, le Copacabana Palace. L'écrivain cubain Alejo Carpentier a été parfois l'invité du compositeur et il raconte l'ambiance dans le studio de la place Saint-Michel. Des murs agressivement décorés en rouge et blanc, un grand piano à queue du genre à vous dévorer le propriétaire des lieux en un seul jour, des sièges à la variété arbitraire, des pupitres, des cendriers. Chaque dimanche après-midi, on y improvise les plus surprenants cocktails d'artistes, de paradoxes, de musique et de nationalité. Et les habitués ne s'y font pas attendre. Un des premiers à arriver, c'est Florent Schmitt, accompagné de sa barbichette blanche, de ses commentaires passionnés, de ses piques brillantes. Et puis arrive le pianiste espagnol Thomas Terán, le poète chilien Vicente Huidobro et son compatriote le compositeur Acario Cotapos, Edgar Varèse et Arthur Laurier, ex-commissaire de la musique en Union soviétique. Villa-Lobos fait alors des prodiges d'habileté pour converser avec tout le monde, comme ces joueurs d'échecs capables de mener de front 20 parties à la fois. Et il s'exprime bien sûr dans un français détestable et dans un espagnol passé au filtre brésilien. Le peintre carioca Di Cavalcanti y servait souvent d'interprète. Et il a raconté combien Villa-Lobos aimait les facéties, les plaisanteries, comme un gamin. La soirée s'achevait parfois au cinéma. Villa-Lobos adorait les westerns, surtout avec Tom Mix. Les choros numéro 4, pour trois corps et un trombone basse, que Villa-Lobos a composé à Paris, interprété ici par les solistes de l'Orchestre Philharmonique de Grande Canarie sous la direction de Adrian Lieper. Voilà, selon Villa-Lobos, comment le choro populaire, qui a digéré les influences européennes et a créé une musique qui n'appartient qu'au Brésil, est entré de belle manière dans les salles de concert. À Paris, Villa-Lobos vit chichement. Alors pour améliorer le quotidien, il donne quelques cours. La pianiste Marguerite Long lui envoie des élèves et Max Eschig l'engage comme correcteur. Puis avec le pianiste João de Sousa Lima, il compose une musique pour un documentaire sur le Brésil qui est projeté le 13 mars 1927 à la salle Gaveau. Mais bien sûr, l'essentiel de son temps est consacré à la composition et à la préparation des concerts de ses œuvres dans la capitale. Quand il fait une pause, avec son cigare aux lèvres, eh bien, il va jouer au billard, car c'est sa passion. Il passe aussi quelques jours en été à Lussac-le-Château, au bord de la Vienne, avec Lucilia, le pianiste Thomas Terran et son épouse, et il s'adonne là à son plaisir favori, confectionner des cerfs-volants et les lancer dans le vent. Et il se fait même photographier avec son immense papagaio, un cerf-volant en forme de poisson qui a bien failli l'emporter dans les airs. Les chorus numéro 7, dans lequel le violon imite la petite guitare cavaquinho ou des orchestres de chorus, par un ensemble de solistes de l'orchestre de Liège dirigé par Georges Élie Octors. Il a été interprété à Paris lors du concert entièrement consacré à Villa-Lobos le 24 octobre 1927 à la salle Gaveau. Ce soir-là, l'orchestre des concerts colonnes a aussi joué les chorus numéro 8, numéro 2 et numéro 4. Sur scène, se sont succédés les pianistes Arthur Rubinstein, Thomas Terran et Aline van Barenzen et les chanteuses brésiliennes Vera Yannakopoulos et Elsie Houston qui étudiaient depuis peu à Paris avec Ninon Valin. Elles ont interprété des mélodies indigènes et quelques serestas, des sérénades pour chant et orchestre. Enfin, Arthur Rubinstein a créé avec succès le Ruggi Poema, le poème rude, que Villa-Lobos lui a dédié et qu'il a imaginé comme un portrait tendre et fougueux du pianiste. La pianiste brésilienne Sonia Rubinsky dans un extrait du Ruggi Poema de Villa-Lobos.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Le deuxième concert, consacré entièrement au compositeur brésilien, a lieu à la salle Gaveau de nouveau le 5 décembre avec les mêmes artistes. L'orchestre des concerts colonnes et les 200 choristes de l'ensemble d'art choral, tous dirigés par Villa-Lobos. Aline van Barenzen crée le deuxième cahier des enfantines à Prole du Bébé, la famille de Bébé. Mais c'est surtout les chorus numéro 10 pour chœur et orchestre créé à Rio un an auparavant qui impressionne l'auditoire. Le public et les journalistes y retrouvent le Villa-Lobos qu'ils aiment, celui qui chante avec passion les fleuves et les forêts du Brésil, et l'œuvre est accueillie avec enthousiasme. Les critiques parlent d'art sauvage, de musique primitive et de poésie barbare, et Villa-Lobos se sent très bien dans ce rôle qui lui est attribué en France. Quant à Paul Leflem et Florent Schmitt, ils sont conscients le soir du concert qu'on a affaire là à un grand compositeur. Les chorus numéro 10 sont surtout une belle histoire qui remonte à l'adolescence de Villa-Lobos, à une musique qu'il avait sans doute jouée et qu'il cite d'ailleurs dans la deuxième partie de son œuvre. Très jeune, il se joignait à l'orchestre de chorus de son vieil ami Anacleto de Medeiros, qui se réunissait dans un magasin de musique du vieux centre de Rio. Vers 1896, Anacleto avait composé un chorus en forme de scottish intitulé Yara, enregistré par une banda vers 1907. Yara, c'était le nom d'un bateau, champion des régates de Rio. Une œuvre si belle en sa simplicité que Villa-Lobos ne l'a jamais oubliée. C'est ce thème musical de Yara qui a inspiré les chorus numéro 10 et c'est aux voix de femmes que Villa-Lobos confie ce thème dans la deuxième partie. Le thème Yara est devenu encore plus populaire quand un poète lui a accolé des paroles. Si tu veux voir l'immensité du ciel et de la mer, rasga o coração, déchire ton cœur et partage la douleur que j'ai de t'aimer. Ce rasga o coração a donné son sous-titre au chorus numéro 10. Dans l'assistance à Paris, une journaliste est particulièrement bouleversée. Lucie de la rue Mardrus, très proche du compositeur dont elle boit les paroles. Et on sait combien Villa-Lobos aimait raconter à ses amis des épisodes qu'il aurait vécu auprès d'indiens sauvages dans la forêt vierge brésilienne, des histoires évidemment qu'il inventait avec délectation. Et Lucie de la rue Mardrus s'y est laissé prendre. De plus, il lui avait prêté le récit d'un voyage au Brésil écrit par Hans Staden, un mercenaire allemand du XVIe siècle, témoin chez les Indiens Tupinambas de pratiques anthropophagiques. Il n'en fallait pas davantage pour que la journaliste, impressionnée par les chorus numéro 10, mélange tout et écrive dans l'intransigeant un article intitulé « L'aventure d'un compositeur, deux points, musique cannibale ». Et même si l'article a fait beaucoup sourire, Villa-Lobos l'a bien aimé. 4 ans plus tard, il invite la grande femme de lettres qu'était Lucie de la rue Mardrus à donner 3 conférences au théâtre municipal de Rio. Les chorus numéro 10, a écrit plus tard le philosophe Marcel Beaufils, sont lâchés dans toutes les instances de la nuit. Une œuvre qui est aussi un monument à la sérénade, une sérénade à l'espace, pleine de chants d'oiseaux, ceux qui chantent au point du jour ou au crépuscule, dans les sertões infinis du nord-est brésilien. John Nächtling à la tête du chœur et de l'orchestre de São Paulo. En réalité, Villa-Lobos n'a jamais exploré la forêt amazonienne. Il n'a jamais vécu la vie des Indiens. Les mélodies indigènes dont il s'est inspiré, il les a entendues sur des cylindres enregistrés par des anthropologues. L'unique forêt vierge qu'il connaissait, c'était la vaste selva de la Tijuca sur les hauteurs de Rio de Janeiro, qui pénètre même jusque dans la ville. Par contre, il connaissait très bien les paysages grandioses de son pays. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il l'a parcouru en globe-trotteur musicien, guitariste et violoncelliste. Et dans cette nature exubérante, il était fasciné par le chant des oiseaux qu'on entend dans ses grandes compositions orchestrales bien avant Messiaen. Messiaen, grand admirateur par ailleurs des orchestrations du compositeur brésilien. Les choros numéro 10, disait Villa-Lobos, sont nés de la contemplation des vallons amazoniens du Mato Grosso et du Pará. Le ciel, les oiseaux et les arbres y laissent leur essence fascinante. Les choros numéro 10 de Villa-Lobos étaient dirigés ici par John Nächtling à la tête du chœur et de l'orchestre symphonique de São Paulo. À Paris en 1928, Villa-Lobos apprend que sa musique commence à être jouée à l'étranger. Aux États-Unis, Leopold Stokowski a dirigé ses danses africaines à la tête de l'orchestre de Philadelphie et plusieurs de ses mélodies sont interprétées à Londres. Début 1929, c'est son Momo Precossi, le petit roi Momo du carnaval, qui est créé à Amsterdam par sa dédicataire Magda Taliaferro sous la direction de Pierre Monteux. C'est Magda qui lui a soufflé l'idée d'un arrangement pour piano et orchestre de son Carnaval des enfants composé en 1919 pour le piano. On y entend et on y perçoit l'espiègle Villa-Lobos vit revoltant avec les enfants au Carnaval de Rio. Magda Taliaferro avec l'orchestre de la radiodiffusion française dirigé par Villa Lobos dans le troisième mouvement de son Momo Precossi. Au mois d'août 1929, le compositeur brésilien retourne dans son pays en compagnie de João de Souza Lima, de Maurice Raskin, d'Elzy Houston qui sont les solistes avec le baryton brésilien Nascimento Filho du concert de ses œuvres le 26 août au Teatro Lírico de Rio de Janeiro. Puis, le 2 octobre, il dirige un concert symphonique au Théâtre municipal de São Paulo. Deux jours après, c'est le retour en Europe. Il débarque en Espagne et dirige à Barcelone avant de rejoindre Paris, où il rencontre, très ému, Vincent d'Indy, 2 ans donc avant sa mort. Son traité de composition est depuis toujours son livre de chevet. En France, Villa Lobos présente plus d'une fois ses œuvres devant des amis. João de Souza Lima, par exemple, se souvient d'en avoir joué en sa présence chez le directeur de la revue musicale. Parmi les invités, il y avait Florent Schmitt, Paul Dukas, Albert Roussel, Louis Aubert et bien d'autres. Comme ce choro pour le piano, composé en 1925, un de ses grands chefs-d'œuvre, il l'avait intitulé « Alma Brasileira », « L'âme brésilienne ».
Thank you.
choro numéro 5 à Uma Brasileira de Villa-Lobos par Nelson Freire. En cette année 1929, Villa-Lobos fait une rencontre plutôt inattendue, celle de Serge Prokofiev et de Diaghilev. Le pianiste Thomas Terán en a été le témoin. Un jour, comme tant d'autres, raconte-t-il, Villa-Lobos m'a demandé d'aller jouer ses œuvres à un petit auditoire réuni chez Prokofiev. Nous sommes arrivés dans un petit appartement du bois de Boulogne et nous avons rencontré Diaghilev, Massine et la petite cour qui tournait autour du grand mécène russe. Selon le musicologue Vasco Maris, Diaghilev a été impressionné par la musique du Brésilien et a même songé à créer un ballet sur ses enfantines, sur quelques cirandas et sur la première suite de la famille de Bébé. Il aurait bien voulu par la suite chorégraphier certaines des 12 études pour guitare qu'il était en train d'écrire à Paris cette année-là. Mais Diaghilev est mort peu après leur rencontre, le 19 août. Étude numéro 1 pour guitare par Andrés Segovia, dédicataire et créateur de ses études composées à Paris. En 1930, Villa-Lobos est invité à enseigner la composition au Conservatoire international de Paris. Et il n'arrête pas de composer. Et toujours des chorus, pour violon et violoncelle, pour piano et orchestre, pour quatuor, pour quintette à vent. Le 1er avril 1930, il voyage à Liège alors qu'on répète à Paris le concert qui a lieu deux jours après à la salle Gaveau. Le 7 mai, sur la même scène, on crée son concerto pour violoncelle et orchestre, des pièces pour violon et orchestre, une messe oratorio et la reprise du choro numéro 8 qui a tant fasciné Florent Schmitt. C'est l'émanation vivante de son pays dont il est pétri, écrit-il. L'orchestre était au complet. 80 musiciens prêts à se déchaîner. Soudain, Aline von Barenzen et Thomas Terán attaquent les deux pianos Gaveau, des tanks qui explosent dans le tumulte avec un fracas de tous les diables. C'est à la fois démoniaque et divin. On sent qu'irrésistiblement un grand souffle a passé. Villa-Lobos est rentré au Brésil lors de l'été 1930.
Thank you.
C'est avec Linda Bustani et Ilan Rechtmann aux deux pianos et John Nischling à la tête de l'orchestre de São Paulo qu'on se quitte aujourd'hui. Rendez-vous donc dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet à la technique Cédric Châtelus. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.